c'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4:09, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Au début du mois d'août 1974, le gouvernement néerlandais annonce que la loi visant à condamner toute collaboration, aide ou soutien à un navire radio entrera en vigueur le 31 août à minuit. Les stations Veronica, Radio North Sea International et Radio Atlantis firent savoir qu'elles ne braveraient pas la loi. Mais Radio Miamigo et Caroline, toutes deux hébergées sur le navire historique de Caroline, affirmèrent qu'elles continueraient à émettre au-delà de cette date. Certes, la future loi hollandaise ne touchera que 5 radios, alors que le Marine Broadcasting Offense Act britannique concernait une dizaine de stations maritimes. Malgré tout, c'est un second coup porté à ces émetteurs privés, et dans les deux cas, ces radios n'ont pu obtenir une révision de la loi sur le monopole d'État à la radiodiffusion.
Be the greatest. Hey, what a beautiful song here opening us off this Saturday evening on the Country Jamboree. Friends and neighbors, welcome on into Saturday night country music time here on Radio North Sea International, live from the North Sea. For the next 2 hours, it's country music at its finest with your old country cousin Daffy Don Allen here behind the microphone. Hoping that you're going to stick around and enjoy the music coming your way here on Radio North Sea International.
Le 19 août à Londres, une manifestation de soutien aux radios offshore est organisée. Cela montre que ces émetteurs marins touchent un public malgré la volonté des gouvernements de les réduire au silence et malgré une plus grande prise en compte des goûts du public par les médias officiels. Les radios offshore sont associées à une histoire, mais aussi à un imaginaire, un peu romanesque. Et les écouter ne relève pas simplement d'un choix culturel, mais aussi du sentiment de faire partie d'une sorte de communauté. D'ailleurs, elles ont leur presse dédiée. Si l'un des aspects des lois anti-radio offshore interdit a priori aux médias de traiter d'un sujet en lien avec elles, une presse spécialisée est apparue. Et son existence est bien évidemment relayée par les émetteurs marins eux-mêmes. Ces stations, même si elles émettent majoritairement en anglais et en néerlandais, ont touché un public européen sans réelle distinction de langue. Il n'est donc pas étonnant que depuis la Grande-Bretagne, pays qui vit l'explosion du phénomène, il y ait une solidarité avec les navires stationnés au large des côtes néerlandaises. C'est Radio Atlantis qui, la première, commença à se mettre en conformité avec la nouvelle loi. Ses programmes en flamand cessèrent le 25 août 1974 à 14h. En voici les dernières minutes.
Dit was Frank van Leeuwen en de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Atlantis.
Le 29 août, le Miamigo leva l'ancre et fit route vers la côte de l'Essex. Ronan O'Reilly craignait que les autorités néerlandaises ne fassent le coup de force et arraisonnent le bateau à l'entrée en vigueur de la loi. Pendant la navigation, les programmes de Radio Miamigo et Caroline se poursuivent.
Vrienden, dit is het einde van Radio Miamigo Internationaal. Let wel op, voor vandaag. We zijn morgen vroeg bij u terug. Vanaf 6 uur in de vroege morgen tot en met 7 uur morgenavond. Met in die 13 uur programmatie. 2 uur met Peter gaat het beter. Morgenavond weer terug tussen 5 en 7. Tot dan de groetjes, de mazzel, rij en vrij voorzichtig. Als u straks naar televisie gaat kijken, gaat u op voldoende afstand zitten. Dat is ook gevaarlijk voor de ogen, hoor, als u er te dichtbij gaat zitten. De groetjes, denkt u nog eens aan ons. Dat heb ik u al gezegd. Wij denken voortdurend aan u.
Dag, thank you, music lovers.
And enjoy the programs of Radio Caroline coming your way in just a few moments.
What's going on?
Le 30 août, à 23h, Radio North Sea International débuta la dernière heure de ses programmes en anglais.
Time and sun in Central Europe is now exactly 11 o'clock and we bring you the final hour of broadcasting from the English service of Radio North Sea International.
On AM,
FM, and shortwave. This is Music for Young Europe on Radio North Sea International.
Depuis le 12 août, on savait que le gouvernement néerlandais n'accorderait pas de fréquence terrestre à la plus ancienne des stations de radio offshore au monde encore en activité, Radio Veronica, malgré son incontestable popularité. Elle avait débuté ses émissions le 6 mai 1960. Le 31 août 1974 à 17h, Rob Hout est le dernier DJ à prendre l'antenne. Il rappelle les grands moments de la station, mais aussi son combat récent. Derrière sa voix, on entend le tic-tac d'une montre qui égrène le compte à rebours. À 17h59, il fait sa dernière intervention.
De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfte ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.
Avec la fin de Veronica, un morceau de démocratie disparaît aux Pays-Bas. Et c'est dommage, pour vous, pour Veronica et surtout pour la Hollande. Ce seront les derniers mots entendus sur la fréquence de cette station qui émit pendant plus d'une décennie sans interruption. Les programmes en anglais de Radio Atlantis se poursuivirent jusqu'au 31 août. Ce jour-là, une émission spéciale débuta à 18h, la dernière. Et la station ferma son antenne à 19h05.
To say goodbye, goodbye to all the listeners, goodbye to all my friends, goodbye to all the people who helped to make the station a real fact, and goodbye to everybody. We are closing down soon, and excuse us, we did our best. We can't say this in words. We don't have words to say it. Nobody can understand it. We feel it all, but. This was a tremendous offer of all these jockeys, young these jockeys and Flemish these jockeys, and everybody said, listen, we want to go on without any money. But if we saw a chance to go on, we really should go on, but it was impossible. I think lots of listeners are crying now, lots of friends of ours, friends of the first hour, we all know them. We received their letters and their cards and their everything. And they made us very happy, and now we have to make them unhappy. It's not our fault. We didn't make a mistake. I don't know what kind of mistake we made. But we have to close against all the problems, and we are very sad to say goodbye. This is Adrian Valencia, and for the last time I say goodbye, and we're closing down now.
Après l'arrêt des émissions en anglais de Radio North Sea International le 30 août à minuit, les programmes en néerlandais débutèrent normalement et se poursuivirent dans la matinée du 31. À partir du début de l'après-midi, des émissions en néerlandais, anglais, mais aussi français marquèrent la fin de RNI. Entre 15h et 17h par exemple, le DJ Pierre De Zijn raconta en anglais et français les grands moments de l'histoire de la station.
That was Todd Rundgren, and I saw the light. C'est en effet aujourd'hui notre dernier jour d'émission, et de maintenant jusqu'à 17h, heure GMT, nous vous proposons de revivre les instants les plus marquants dans l'histoire de Radio North Sea International. Nous vous rappelons que la loi anti-pirate entre en vigueur ce jour à minuit, et que ce sera à cette heure-là que nos émetteurs deviendront silencieux.
Visiblement bien déterminée à faire taire les radios offshore, la police néerlandaise perquisitionna les bureaux de Radio Miamigo à Breda et saisit du matériel d'enregistrement ainsi que des bandes magnétiques de programmes préenregistrés. mais cela n'entama pas la détermination sur le navire déjà loin des côtes hollandaises. Le 31 août, les programmes de Radio Mi Amigo se poursuivirent normalement.
Radio Mi Amigo International, il est 17h. Radio Mi Amigo International, rebonjour au micro Patrick Dubateau. Il est 17h01, aujourd'hui samedi 31 août, ce qui signifie pour beaucoup la semaine prochaine la rentrée des classes. Aujourd'hui pas de Mi Amigo I15 et comme promis un spécial rock'n'roll.
Comme un air de déjà-vu ou de déjà-entendu, sur la fréquence 259 mètres onde moyenne, voici ce que l'on peut entendre le 1er septembre 1974 à 0h. La programmation musicale est presque la même que le 15 août 1967 à la même heure.
Radio Caroline International, 259 Meter Mittelwelle. Ici Radio Caroline International, 259 Meter en moyenne. Dit is Radio Caroline International, 259 Meter in the middle. This is Radio Caroline International, broadcasting on 259 meters in the medium wave band. It's Sunday, 1st of September, 1974. And on behalf of people like Tone, Yap, our captains, Captain Donald and Captain Tal, Bill, Joost, Peter van Dijkum, Coates van Dijkum, Peter Hayes, Mickey Mercer, Andy Archer, Mike Hagler, Norman, JJ, Charlotte, Coates and Lonus, Elia, Chicago, Brian, John Mayer, Graham Gill, the list is endless.
She is the fairest of them all.
The entire Caroline family wants to say we love you.
À chaque fois que l'on a parlé de la mer dans cette histoire, ce fut pour décrire son hostilité et les dommages qu'elle fait subir aux bateaux et à leurs équipages. Mais la plupart du temps, les navires radio ne sont pas vraiment isolés. À la limite des eaux territoriales, ils sont régulièrement croisés par des navires marchands, mais aussi parfois par des plaisanciers. Si les bateaux émetteurs ont souvent eu besoin d'aide, il leur est parfois aussi arrivé d'intervenir dans des situations plus ou moins périlleuses. Ce 1er septembre, un peu après 20h, à l'antenne de Radio Caroline, le DJ Tony Allan rapporte la nouvelle d'un plaisancier égaré en mer du Nord qui s'est rapproché du Mi Amigo. Le message est surtout destiné aux proches des occupants du bateau.
It started off really miserable this morning. At about 5 o'clock, it was a terrible day, really stormy. And then it got beautiful. It really got very sunny and calm. And now it's blown up again. I want to repeat an announcement that I made earlier on in the afternoon, and this is for Buster. I hope he's listening. Also for Ronan, if he's listening. A motor launch, the name of which is Moonraker. The Moonraker. She's registered in London, and she was out this afternoon in the North Sea cruising round on a Sunday afternoon jaunt. And of course, this storm has blown up, and all the poor loves on board have got sort of a bit lost, as it were, here in the middle of the North Sea. They're alongside us now. In fact, they're tied up on the back of us at the moment on a long, long rope, and we're looking after them. We just sent them some food over. We just had dinner, and we thought they might like something warm inside them, so we're sending some food over and a little note to ask them if they need anything else. Anyway, Buster, if anybody knows about the Moonraker, don't worry about them. They are safe, and possibly they'll be staying here till the weather gets better, but I don't know how long that's going to be. I mean, it could take all night or what. So, Buster, if you're listening, if you haven't already done it, possibly you could phone the Coast Guard and tell them the fact that the Moonraker, registered in London, is alongside the ship, and she is safe, but maybe they'd like to send out a launch, I don't know, to escort her in and show her the way home. Maybe. I don't know. It's up to you. Anyway, Buster, you know where we are, and you know what position is. Let's play some music for all the people on the Moonraker. Unfortunately, they can't hear us because they don't even have a little radio set on board, and my transistor I left at Graham Gill's, so I can't even send them mine. But the love's there anyway. This is something from Brian Ferry.
C'est donc la deuxième fois que Radio Caroline brave la loi. À partir de maintenant, avec Radio Miamigo, elles sont les seules stations offshore en mer du Nord, mais aussi les seules au monde, car The Voice of Peace a dû cesser ses émissions faute d'argent. Les deux radios donnent maintenant une adresse de correspondance à Playa de Haro en Espagne et annoncent que le Miamigo sera ravitaillé depuis l'Espagne. Lors de la première entrée en résistance, Caroline avait tenu 7 mois. Quand sera-t-il cette fois ? Il y a désormais deux équipes sur le navire historique, celle de Caroline et celle de Radio Miamigo. Cela va-t-il favoriser une plus grande capacité de résistance ? D'autres stations vont-elles naître et rejoindre le Miamigo dans la lutte ? Le 1er septembre dans la journée, le navire de Radio Atlantis leva l'ancre et fit route vers le port de Wislingen, où l'attendait un millier de personnes. Le Nordernais de Radio Veronica ne bougea pas de son ancrage et un équipage de 9 personnes resta à bord. Une rumeur circula faisant état d'une reprise prochaine des programmes de la station historique. Le Mebo 2 de Radio North Sea International ne bougea pas non plus immédiatement de son point d'ancrage et le quitta seulement le 9 septembre pour entrer dans le port de Slickerware où il fut mis en cale sèche, révisé et repeint. À l'intérieur, 3 nouveaux studios furent construits et le mât d'antenne fut surélevé. Un second émetteur en ondes moyennes fut également installé. Un communiqué annonça que le Mebo 2 irait mouiller au large de Gênes en Italie et que les programmes redémarreraient sous le nom Radio Nova International. Le bateau reçut également la visite de Sylvain Tac, le fondateur de Radio Miamigo, laissant imaginer que sa station pourrait changer de navire.
Nou zeg, de lekkere sushiwafels, bedekt met een laagje heerlijke chocolade.
Formidabel zeg!
Op elk pakje gratis, artiestpunten.
De lekkere sushiwafels, met chocolade.
Good morning, amigos, Radio Mi Amigos.
En ik heb dat ook. Als je 's morgens wakker wordt...
Peut-être pour éviter des problèmes avec la justice hollandaise, Radio Miamigo mit largement en valeur à l'antenne son audience belge. Malgré tout, un certain nombre de publicités émanant d'annonceurs hollandais et précédemment entendues sur les ondes de Radio Veronica ou Radio North Sea International furent diffusées dans les programmes. Les annonceurs concernés déclarèrent que ces publicités avaient été diffusées sans leur accord et surtout sans qu'ils ne les aient payées. Décidément, on a l'impression d'être revenu 7 ans en arrière au moment du Marine Broadcasting Offense Act britannique. Le 26 septembre 1974, la police néerlandaise perquisitionna les anciens locaux de Radio Miamigo à Breda, soupçonnant que des programmes y étaient toujours fabriqués. Mais les forces de l'ordre ne trouvèrent rien. Sylvain Tak déclara qu'il n'était plus en lien avec la station. Mais une chaîne de télé néerlandaise révéla qu'un studio d'enregistrement avait été installé dans l'une des usines de biscuits du groupe industriel de M. Tak à Bissingen. Après la divulgation de cette information, le studio fut déménagé en toute hâte vers une ferme isolée dans la campagne belge. Le 9 octobre, le Mebo 2 et son ravitailleur, le Mebo 1, appareillèrent pour la haute mer. Mais ils furent immédiatement bloqués par les autorités néerlandaises, en vertu du fait que le Mebo 2 transportait des équipements de diffusion radiophonique. Une première audience judiciaire eut lieu le 11 novembre 1974, et les avocats de Mebo Limited firent valoir que le navire battant pavillon panaméen, c'était la loi de ce pays qui devait s'appliquer et qu'en vertu de cette loi, les émetteurs étaient considérés comme une marchandise. La justice ne retiendra pas cet argument et les propriétaires devront retirer tout le matériel de diffusion pour libérer le navire. le 29 novembre, le tribunal de grande instance de Bruxelles statuait sur la plainte déposée par le gouvernement belge contre Adriaan van Langschot et trois autres responsables de l'ex-Radio Atlantis pour infraction à la loi belge de 1962 sur la radiodiffusion. Tous quatre seront reconnus coupables et condamnés à des amendes et de la prison avec sursis pour Van Langschot. Vers la fin de l'année 1974, une tentative pour relancer Radio Atlantis fut entreprise depuis le phare de Gunfleet, construit sur pilotis au large des côtes de l'Essex. Quelques essais de transmission furent effectués sous le nom de Radio Dolphin, mais l'expérience tourna court. Le 19 décembre, la police aborda le phare et saisit tout le matériel de diffusion. Pendant ce temps, les programmes continuent à être diffusés depuis le Miamigo. Le navire est discrètement ravitaillé par des bateaux de pêche partant de petits ports belges ou néerlandais, souvent très tôt le matin. Les liaisons pouvaient parfois prendre jusqu'à 48 heures. Les DJ, quant à eux, avaient pour point de départ ou d'arrivée des petites plages situées sur la côte sud-est de l'Angleterre. Mais les autorités maritimes ont commencé à repérer ces allers et retours, pourtant discrets. Le 29 octobre, une vedette fut interceptée au large de Burnham and Crouch dans l'Essex. Elle était de retour d'une liaison avec le Miamigo pour y ramener deux DJ. Il n'y eut pas de suite judiciaire. Le 26 novembre, c'est un navire parti de Bricklingsea qui fut photographié depuis un hélicoptère alors qu'il se dirigeait vers le Miamigo. À son retour, le bateau reçut la visite des douanes et du matériel de transmission radio fut saisi. À cette époque, l'antenne de Caroline est régulièrement ponctuée de séquences consacrées au « Loving Awareness », une philosophie de l'amour inspirée à Ronan O'Reilly par les réflexions du Mahatma Gandhi et de Martin Luther King.
Kept down in between some reminders that loving awareness is free and loving awareness is a habit. But the most important thing about loving awareness is this.
Loving awareness makes you happy. Makes you happy.
Ronan O'Reilly explique la pensée du Loving Awareness. Notre cerveau possède à la fois une énergie aimante et une énergie défensive. Mais nous utilisons surtout l'énergie défensive. Le Loving Awareness nous pousse à développer cette énergie aimante qui est naturelle. Mais toujours selon O'Reilly, la vie est devenue une survie et nous pousse au repli et à l'égoïsme. Caroline veut promouvoir l'idée selon laquelle, si nous aimons spontanément, les autres nous aimeront en retour.
In the beginning, there was darkness, and the spirit of DA reared its head in habitual pattern, preying on the mind of man, oppressing him. And then one man turned to himself and said, in a voice free from fear, let there be LA.
I think I am.
La situation de la radio historique des années pop britanniques est étrange. Même si elle n'a pas été la première radio flottante en Europe, elle lança le phénomène en Grande-Bretagne, pays qui restera dans l'histoire comme ayant connu le plus de stations offshore. C'est le succès immédiat de Radio Caroline qui suscitera la naissance d'autres radios flottantes, et en particulier de Radio London, financée en grande partie par des capitaux américains. Il n'est donc pas exagéré de dire que la radio fondée par Ronan O'Reilly a eu dès son origine un rayonnement international. C'est le mouvement initié par Caroline qui va pousser une évolution de la BBC et la création de Radio One en septembre 1967. De nombreux DJ des premières années sont devenus des figures du paysage audiovisuel britannique. On peut les entendre sur les ondes ou les voir à la télé, comme le constate Mike Allen depuis le Miamigo en cette fin d'année 1974.
I'm watching the telly box most of the day, actually watching all the films and things they had on. And it's strange, every time I turn on the TV nowadays, I see Caroline disc jockeys. Today there were four Radio Caroline disc jockeys on TV. Tony Blackburn was on Top of the Pops with Clunk Click. And on the other channel, just before that, Stevie Merrick and Roger Day from Piccadilly Radio made a guest appearance in 45. And also on 45 was Roscoe, all Caroline jockeys. And I must say, 45 is turning into a rather nice little radio television program, record program. Particularly with Kid Jensen doing it. It's got the edge on Top of the Pops, I tell you that much. Very much due to the fact that there's a chap called Peter Walker directing it.
Pourtant, aujourd'hui, la station est marginale et clandestine. Il est difficile de mesurer son audience, car les médias britanniques, en raison du Marine Broadcasting Offence Act, n'ont normalement plus le droit de parler des stations flottantes. De fait, la presse anglaise est presque vierge de tout article les concernant. En faisant de Caroline le porte-parole du Loving Awareness, la philosophie de l'amour universel, Ronan O'Reilly espère que sa station sera à l'origine d'un nouveau mouvement comme elle fut la porte-parole de la culture pop à son lancement.
We'll play that lot for two people. Dave Gottsan, also Denny Tewson, and in fact four in a row just about actually, or should we say three and a half. First of all, Sweet Surrender by Bread. Secondly, One of Those Days by, of course, Pink Floyd from the Metal album. And thirdly and fourthly, Funeral for a Friend and Love Lies Bleeding. That comes from Elton John's album, Goodbye Yellow Brick Road. Very nice too. One of the things that I guess Caroline is getting quite famous for now is talking about L.A. And if you still don't know what L.A. is, L.A. is very closely linked with a thing called D.A. L.A. is basically loving awareness and D.A. is basically defensive awareness. And I think that you could say it was a fact that the majority of people in this country, in fact, across most of the planet, in fact, are brought up in a defensive way, i.e. if any problems come up or just in everyday conversation and so on, they're always on the defensive.
Le 17 février 1975, la police belge, visiblement bien renseignée, opère une perquisition dans une ferme isolée à Opbrakel, en Flandre. C'est là qu'un studio clandestin de Radio Miamigo fabrique des programmes. La police saisit du matériel et arrêta trois personnes, dont deux DJ. Sylvain Tac quitta précipitamment la Belgique pour se réfugier dans sa villa de Playa de Haro. Depuis l'Espagne, il admit être toujours à la tête de Radio Miamigo et fit construire un nouveau studio d'enregistrement à Playa de Haro. Très habilement, Radio Miamigo noue des partenariats avec des stations de radio commerciales espagnoles pour qu'elles diffusent quelques programmes en néerlandais. Officiellement, la direction de Miamigo expliqua qu'il s'agissait juste de proposer des programmes pour les touristes néerlandais voyageant en Espagne. Mais en réalité, c'était une façon assez ingénieuse de contourner les lois anti-radio offshore belges et néerlandaises. Il n'était en effet pas interdit pour des annonceurs de ces deux pays d'acheter des espaces publicitaires sur des radios espagnoles. Et même si les programmes dans lesquels ces publicités figuraient était aussi diffusé depuis un navire en mer du Nord, ce n'était pas avec ce navire que les contrats avaient été passés.
Het stemming die als die beste kwaliteit om dames en heren confectie aan halve prijs. Twee stuks halen, één betalen. Dat is Stemming, het grootste confectiebedrijf van België. Stemming Aalst, twee stuks halen, één betalen.
Le 28 mai 1975, le MV Peace quitta le port de Marseille dans l'intention de se diriger vers le canal de Suez. Nous avons déjà évoqué l'incroyable détermination de Abinathan, le fondateur de The Voice of Peace, silencieuse depuis plusieurs mois. Pendant les quelques mois d'émission, le navire dut changer de position régulièrement pour des raisons de sécurité. Et la station, même si elle était très écoutée, a dû faire face à des difficultés financières importantes. Abinathan crut que même sans émettre, la présence du MV Peace en Europe permettrait de récolter des fonds pour la Fondation pour la Paix et ainsi de redémarrer les émissions de la station. Mais ce ne fut pas le cas. À la fin de l'année 1974, d'insistantes rumeurs faisaient état d'une vente imminente du navire à un nouvel opérateur de radio maritime. Finalement, Abinathan conclut un accord avec une organisation religieuse allemande qui versa une somme obligeant Nathan à n'accepter aucune autre proposition d'achat pour le bateau. Cette offre courait pendant trois mois. L'organisation avait en quelque sorte pris une option d'achat. Pris entre cet ultimatum et l'impératif de trouver des fonds afin de s'en libérer, Abinathan fit encore un rêve d'idéaliste, faire que le MV Peace soit le premier navire à emprunter le canal de Suez au moment de sa réouverture le 5 juin 1975. Ainsi, ce 28 mai, le navire appareilla pour la haute mer. Les émissions reprirent dès l'appareillage, mais un problème d'émetteur les interrompit le 3 juin. À environ 40 milles de Port Saïd, l'émetteur fut remis en marche et la traversée prochaine du canal de Suez fut annoncée. Le 5 juin, la diffusion des programmes fut encore brièvement interrompue à cause d'une divergence entre Abinathan et le capitaine du bateau, qui estimait plus prudent d'arrêter l'émetteur à l'entrée dans les eaux territoriales égyptiennes. Une canonnière de la marine égyptienne se porta à hauteur du MV Peace et ordonna au capitaine de la suivre. Elle ramena le bateau à la limite des 3 milles de Port Saïd et à un peu moins d'un mille de la bouée d'entrée du canal de Suez. Le MV Peace dut jeter l'ancre à cet endroit et la canonnière prit position à quelques centaines de mètres. Le navire radio était sous surveillance. De nombreux autres bateaux se rassemblèrent aux abords de la bouée. Et lorsque le président égyptien Anwar al-Sadat officialisa la réouverture du canal, les navires furent guidés dans le couloir de navigation. Le MV Peace ne fit pas partie du voyage. Le 8 juin, un autre convoi de navires fut escorté pour passer le canal. Mais le MV Peace ne fut toujours pas convié. Pire, la canonnière se mit à tirer dans sa direction. Abinathan apprit alors qu'en Égypte, une rumeur circulait selon laquelle le MV Peace avait été coulé. Le 16 juin, le bateau pilote escortant les navires à l'entrée du canal s'intéressa enfin aux navires radio. Ses fonctionnaires demandant des renseignements sur la nationalité de l'équipage et la destination. Mais rien ne bougea. La canonnière fut remplacée par une autre qui navigua autour du bateau émetteur, manquant de le percuter à plusieurs reprises. À bord, les vivres et l'eau douce commencèrent à manquer, et deux membres d'équipage tombèrent malades. Abinathan fut contraint de demander une autorisation d'entrée à Port Saïd. Mais c'est finalement une vedette de la marine égyptienne qui accosta le navire radio pour apporter des soins aux malades et récupérer deux membres d'équipage de nationalité égyptienne. Nathan fut finalement informé que le MV Peace ne pourrait pas emprunter le canal de Suez. Contre l'avis de son équipage, il était prêt à attendre encore pour infléchir la décision des autorités égyptiennes. Mais au bout de 3 semaines, il dut admettre que son souhait ne se réaliserait pas. Le navire quitta son ancrage le 26 juin 1975. Nathan espérant encore qu'en lançant un appel au président Sadat depuis les eaux internationales, l'autorisation d'emprunter le canal lui serait finalement accordée. La canonnière escorta un moment le bateau en pointant ses canons vers lui. Manquant de repères sur la zone d'opération des Égyptiens, le capitaine dirigea le MV Peace à la limite des eaux territoriales israéliennes. De là, l'émetteur diffusa un message spécial de Abinathan à destination du président égyptien, racontant l'histoire de la radio et de la Fondation pour la paix. Ce message reste à lettre morte. Le navire prit alors la direction du port israélien d'Ashdod afin de procéder à un ravitaillement. Mi-septembre, Abinathan fit une seconde tentative pour faire traverser le canal au MV Peace, mais il n'eut pas plus de succès. Les autorités égyptiennes restèrent intraitables. C'était les DJ de la haute mer, 27e épisode.